19h-20h. Les informés.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Avec Adil Farkan.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Sur Beurre FM.
Je kiffe. 19h-20h, c'est les informés. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est parti durant une heure, vous le savez, durant ensemble une heure pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Et nous sommes ensemble, à la fois avec des débatteurs influenceurs qui viendront commenter les trois sujets qui ont retenu notre attention, mais également aussi l'invité, M. Gérard Vespierre, qui est le géopolitologue, qui viendra nous apporter son analyse et son regard concernant la guerre en Ukraine, avec notamment une question qu'on soulève. Jusqu'où ira-t-il Poutine? Et puis surtout, la question de cette Europe qui doit aujourd'hui prendre ses responsabilités ou pas, et jusqu'où peut-on aller? Voilà ce qui nous retient ce soir, notre attention. Mais également aussi, vous, au 01 53 48 3000, vous nous appelez, vous commentez, comme vous le faites si bien, comme chaque soir. Ici même, c'est le seul numéro partout en France et dans le monde. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité des informés, c'est parti, c'est tout de suite.
Les informés, l'interview. L'interview.
Et l'interview, c'est avec M. Gérard Vespierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Vous êtes géopolitologue, vous êtes aussi évidemment chercheur associé à la FMEO. Donc, vous êtes spécialiste de la géopolitique, notamment. Vous avez participé à pas mal, hein, évidemment, de
recherches. J'ai fondé un site aussi, oui. Le monde lécrypté.com.
Vous faites bien de le rappeler. Gérard, voilà. Vespierre, dites-moi, cette guerre en Ukraine qui ne fait que durer, plus d'un mois maintenant, et j'ai envie de vous poser d'abord cette... Vous aviez fait une déclaration où vous dites notamment que l'Europe doit prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, un mois après cette déclaration, quelle responsabilité aujourd'hui elle doit prendre, l'Europe, aujourd'hui?
L'Europe, elle est en train de prendre trois responsabilités. Une responsabilité militaire, une responsabilité humanitaire et une responsabilité économique pour le futur. Premièrement, militaire, il ne faut pas oublier quand même que l'Europe est en train de livrer ce qui est essentiel d'un point de vue militaire pour l'Ukraine, à savoir des missiles anti-tanks,
oui,
et des missiles anti-hélicoptères. Et ça, si vous voulez, ça peut rappeler à la Russie ce qu'a vécu l'URSS en Afghanistan. Alors certes, les situations géographiques, géopolitiques sont différentes, mais ce qui a tué et usé l'armée soviétique en Afghanistan, ce sont les fameux missiles Stinger américains qui ont détruit des centaines de chars et des centaines d'hélicoptères, des piqûres tous les jours pendant longtemps. Et là, on peut avoir, étant donné le nombre de troupes russes déployées en Ukraine, des piqûres, avec l'armement qui est livré par l'Europe. Et on en voit déjà les résultats, puisque l'armée russe, avec son aura, eh bien, après un mois de combat, est arrêtée, se replie pour reprendre des forces et penser un petit peu ses plaies et aussi compenser ses absences de ravitaillement. Donc on voit qu'il y a là un apport militaire européen, en particulier de l'Angleterre, aussi de l'Allemagne, non négligeable. Donc sur le plan humanitaire, chacun prend ses responsabilités pour accueillir le plus grand nombre de réfugiés possible dans les meilleures conditions possibles. Et troisièmement, sur le volet du moyen terme, eh bien, je pense qu'il y a, en ajoutant l'Angleterre, pratiquement 500 millions, n'est-ce pas,
oui,
d'Européens qui vont se réunir pour remonter l'Ukraine encore plus forte et faire en sorte qu'elle soit
Gérard Vespierre, aujourd'hui, un mois après, cette guerre continue de durer. Est-ce qu'il n'a pas perdu tout simplement contact avec la réalité? Les Américains disent que d'ailleurs, il est un peu en conflit avec ses conseillers les plus proches, notamment, et puis aussi quelques personnalités de l'état-major.
Tout à fait. Je pense que, si vous voulez, j'évoquais tout à l'heure la guerre en Afghanistan. La guerre en Afghanistan s'est terminée en 89 et donc l'URSS a explosé un an après. Je pense qu'après la guerre d'Ukraine, eh bien, Vladimir Poutine explosera aussi. Il y a eu un choix de sa part d'être enfermé pour monter ce projet, et cet enfermement pour créer la surprise, parce que la surprise ne pouvait être était liée à un très grand secret de l'opération. Et donc, plus vous êtes secret, moins il y a de personnes, moins vous recevez aussi l'information. Et c'est ce qui a tué, je pense, l'analyse correcte qui aurait dû être faite avant de lancer cette guerre absolument stupide. Vladimir Poutine n'a pas su s'entourer. Et donc, maintenant, l'état-major est fissuré, parce que bien sûr, bon nombre d'officiers supérieurs sont outrés de ne pas avoir été mis dans la confidence. Mais ça n'aurait pas été très grave si le chef avait gagné, n'est-ce pas? Or là, le chef est en train de perdre. Donc il y a la rancœur de ne pas avoir été mis
dans la confidence. Vraiment, vous avez l'intime conviction qu'il est en train de perdre, Vladimir Poutine, franchement?
Oui, parce que d'abord, à partir du moment où il n'a pas gagné une guerre éclair, à partir du moment où M. Zelensky est toujours là, à partir du moment où il n'y a pas de nazis en Ukraine, eh bien, effectivement, les pertes militaires sont telles qu'il a perdu dans la réalité des faits, si vous voulez. L'armée russe se regarde elle-même en disant « mais qu'est-ce qui nous arrive ?» parce qu'il y a eu un déclenchement des opérations qui était, n'ayons pas peur des mots, ubuesque, des soldats russes qui étaient en Biélorussie et à qui on a dit le jour J, eh bien on y va, suivez, on dit tout d'un coup, mais dites donc, commandant, on est en Ukraine, il faut faire demi-tour, c'est une
selon
erreur.
Selon vous géopolitologue...
L'armée russe ne savait même pas qu'elle était en
Ukraine. Gérard Vespierre, vous géopolitologue, vous êtes spécialiste de ces questions justement, j'ai envie de vous poser une question qui est simple. Allez-y. À la fois et que beaucoup, évidemment, pensent. Alors, vous dites que cette guerre est perdue pour Poutine. Aujourd'hui, selon vous, que va-t-il se produire dans les jours, dans les semaines à venir pour Kiev, mais aussi pour Vladimir Poutine? Comment vous voyez-vous la fin de cette guerre?
Premièrement, il y aura peu ou prou un cessez-le-feu. Il faut effectivement en arriver là. Et donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, personne n'est maître du temps autre que le Kremlin. Mais le Kremlin sera obligé. Les guerres ne sauraient durer indéfiniment. Donc, étant donné la situation, il y aura obligation d'y mettre fin par un cessez-le-feu, de formaliser plus avant les négociations de paix entre ministres des Affaires étrangères respectifs, avant qu'il y ait in fine des rencontres entre Zelensky et Poutine ou l'équivalent. Donc, on est dans ce processus-là. Personne ne maîtrise le temps. Il est bien évident que à partir du moment où Mariupol ne tombe pas, et ça c'est remarquable, fantastique de la part de la résistance ukrainienne, à partir du moment où les troupes russes reculent autour de Kiev et ne progressent absolument pas et reculent aussi dans le sud, eh bien les Russes vont être amenés à passer à ce choix nouveau, eh bien peut-être de prendre la main définitive sur le Donbass. Ça c'est possible, mais ça sera aux Ukrainiens de valider cela, mais on va vers, dans les prochaines semaines au plus tard, des négociations officielles et un cessez-le-feu.
Dites-moi, un cessez-le-feu, jusqu'où finalement, la question que beaucoup se posent, jusqu'où peut-il aller, jusqu'où ira-t-il Vladimir Poutine ? Gérard,
écoutez, il est allé loin parce qu'il était tout seul. Mais maintenant que l'ensemble du dispositif militaire russe est impliqué, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin militairement. Il suffit de revoir les images. Les images, quand Vladimir Poutine a demandé simplement à son ministre des armées, Shoigu, de monter le niveau d'alerte nucléaire. Donc c'est pas grand chose ça. Faut voir ce que c'est. Ça correspond à dire, ben messieurs qui sont en train de lire là, vous arrêtez de lire et vous allez à votre poste de combat, pas plus. Bon, donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment mineur dans l'élévation de la d'un souci ou d'une procédure nucléaire. C'est vraiment l'échelon le plus bas, le plus bas. Et le ministre était pétrifié parce qu'il était contre cette ordre. Et donc, l'ensemble, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'appareil militaire russe maintenant est anti-Poutine ou très très réservé par rapport au chef qui a fait de mauvais choix et qui a provoqué des pertes énormes en matériel. les Russes, au jour d'aujourd'hui, ont perdu plus de 350 chars, c'est-à-dire un tiers des chars impliqués dans l'attaque de l'Ukraine, n'est-ce pas ? C'est énorme, c'est plus de 10% de la totalité des chars dont dispose la Russie. Et ça va être difficile de les remplacer parce que l'économie va être difficile. Donc on est dans une spirale qui va tirer le pouvoir du Kremlin actuel vers le bas.
Dernière question, mon cher Gérard Vespierre. Aujourd'hui, est-ce que l'Europe a évidemment la capacité à trouver une sortie de crise diplomatiquement ? Joe Biden était en Europe. Est-ce qu'il va, oui, selon vous, parvenir à trouver discussion avec Vladimir Poutine ? Ou est-ce que les choses, tout au contraire, vont prendre une autre forme diplomatique et que la géopolitique va prendre un autre dessin, va prendre une autre tournure? Gérard Vespierre, ma question est très claire.
Ben écoutez, je pense que moi j'ai dit avant même, et je l'ai dit sur RT France, où j'étais invité assez régulièrement, j'aurais dit la catastrophe de cette situation, c'est que Russes et Ukrainiens, avant la guerre, ne se parlent pas. Et finalement, après la guerre ou pendant la guerre, ils sont bien obligés de se parler. C'est incontournable, n'est-ce pas ? On se souvient très bien que Poutine a dit au début, avant la guerre, des semaines, je ne veux parler qu'avec les États-Unis. Mais ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les États-Unis qui sont maîtres du jeu en Ukraine. Ce sont les Ukrainiens. Donc maintenant, on voit bien qu'en Turquie, qui parle avec qui ? Eh bien, ce sont les Russes qui parlent avec les Ukrainiens. Donc on a perdu beaucoup de temps, on a perdu des dizaines de milliers de vies, mais c'est vraiment entre ces deux pays que la situation va pouvoir s'éclaircir et se résoudre, et dans un cadre de sécurité garanti par les Européens et les États-Unis.
Un dernier mot, Gérard Vespierre, je vous laisse le mot de la fin concernant cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, qui sont inquiets d'ailleurs notamment en France sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur l'économie qui aussi, elle aussi, connaît une certaine hausse, hein, quand on parle du gaz, quand on parle du pétrole, quand on parle d'électricité, quand on parle tout simplement de notre vie quotidienne. Vous avez envie de leur livrer quoi comme message ? Parce que ça a des conséquences tout ça, hein ?
Oui, ça a des conséquences effectivement dans le porte-monnaie quotidien et le porte-monnaie mensuel, la fin du mois. Je veux dire qu'il faut accepter dans le monde que nous vivons, et déjà depuis quelques années, qu'il y ait des hauts et des bas. Je crois que nous avons été très très contents quand il y a eu la crise du Covid, et quelques années avant, quand il y a eu la très grande baisse des prix du pétrole, eh bien, de bénéficier effectivement d'un baril de pétrole à $30, et donc d'un prix à la pompe du diesel à 1,25 ou 1,30. Eh bien, il y a un moment à 1,25 et 1,30, et puis, quelques années ou quelques mois après, il monte à 2. Et donc on est dans une dynamique économique mondiale que l'on ne connaissait pas il y a effectivement quelques années, où on avait des cycles longs, tranquilles. Et maintenant, on a des hauts et des bas qui se succèdent assez violemment. C'était imprévu, c'était imprévisible, mais il faut dire que les bas compensent les hauts.
Merci infiniment Gérard Vespierre. Vous êtes, je le rappelle, vous le spécialiste de la géopolitique, géopolitologue, chercheur associé à l'FMEO. Donc merci infiniment d'avoir été avec nous. Rappelez votre site, mon cher Gérard Vespierre.
Le Monde Décrypté, soit.com, soit TV pour la chaîne YouTube, Le Monde Décrypté.
Merci infiniment et au plaisir de vous retrouver sur l'antenne des Informés. Merci Gérard Vespierre.
Tout à fait partagé. Merci pour la précision de vos questions.
Merci avec plaisir. 19h14, nous marquons la première pause pub et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs, avec Amit Chriet, avec Jimmy Dalidou et enfin avec Rayed Chebi. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
9h20, il y en a un qui est chaud aujourd'hui. Hein. Il est chaud, le face-à-face, c'est parti.
Les Informés, le face-à-face.
Je ne sais pas ce qui l'excite, mais Amit Chriet, il est chaud, Amit Chriet, non ? Ouais, non, mais qu'est-ce qui vous arrive, Amit Chriet ? Vous avez pris une substance ?
Non, je suis tout calme.
Il est Zaefman ou quoi ? Zaefman !
Zaefman !
Exactement. Comment ça va, Amit Chriet ?
Très bien.
Tout va bien ?
Vraiment bien. Et surtout la qualité des sujets aujourd'hui. Surtout sur les sujets qui concernent le président Macron. J'adore ça.
Comme tous les soirs.
J'en raffole des sujets qui concernent Macron.
J'en raffole. Jimmy Dalidou, bonsoir. Représentant CGT et auteur. Comment ça va bien ?
Je suis déçu aujourd'hui.
Pourquoi ?
Petite déception parce qu'on avait un anniversaire à souhaiter et personne ne l'a fait.
C'est quoi?
Bah, quand même, le 31 mars 1790, entre 18 et 22 heures, a été élu Robespierre à la présidence du club des Jacobins. Personne n'a souhaité son anniversaire, non, mais s'il vous plaît.
Si Robespierre nous entend,
je pense à mon anniversaire ça, déjà.
Ça, voilà.
Ouais, vous avez raison.
À part ça, ça va.
Raïm Chaibi, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association de la coopération franco-tunisienne, ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Messieurs, nous allons parler.
Franco-tunisienne, j'ai cru que c'était franco-macroniste.
Non, c'est franco-tunisienne.
Il est vache.
J'ai eu peur.
Il est vache, hein, il est vache. Vous savez comment il vous taquine?
Je ne réponds pas à la provocation.
Non, j'ai du mal lire mes dossiers.
Sondage exclusif, l'écart entre Macron et Le Pen qui n'a jamais été aussi serré, messieurs, au second tour. Certains même d'ailleurs disent que Marine Le Pen, elle a ce potentiel justement de venir plus que jamais bousculer Emmanuel Macron. Un tour de table, est-ce qu'on a une explication à Mitch Ryetz?
Écoutez, cet écart-là...
On est à quelques jours là, hein.
Oui,
on est à 10 jours.
Oui, vous savez, les sondages, il faut se méfier des sondages. On parle d'écart, aujourd'hui on voit bien que le président... Non mais, attendez, d'abord c'est une non-élection, il n'y a pas de bilan. Le président de la République n'a pas fait de bilan. Avez-vous lu, vous, un bilan? Moi je n'ai pas vu de bilan. J'ai pas vu un candidat qui s'est exprimé, qui a rencontré les Français. J'ai vu plutôt une personne qui s'est représentée, qui est à la fois président de la République dans des sommets et qui est à la fois candidat. Et qui fait des clips sur Netflix, un peu à la James Bond ou je ne sais pas quoi.
Oh,
donc à un moment donné, attendez, je ne fais que décrire ce que le président de la République ou le candidat, je ne sais pas quoi, parce que on a l'impression que cette élection est truquée, comme dit Nicolas Dupont-Aignan. Je ne fais que citer, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais attendez. Et donc, par conséquent, il y a des questions à se poser. En ce qui concerne Marine Le Pen aujourd'hui, on voit bien que Marine Le Pen est dans une dynamique, mais elle n'est pas la seule. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a d'autres candidats aujourd'hui. Donc, on voit bien que ce président de la République-là est en hausse dans les sondages.
Ce qui est surprenant,
mais il est quand même à 23-24%.
Oui,
ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas fait son bilan, c'est qu'il a un bilan catastrophique et il a fait un mini-programme de 55 milliards où il veut taxer le RSA. Et quand on sait aujourd'hui les affaires qui sont en train de sortir sur la question de McKinsey,
52,5 et 47,5.
Quand on voit quand on voit les affaires d'État sur la question de McKinsey, aujourd'hui on se pose des questions. Comment se fait-il qu'un président de la République qui est à 23%, soit les Français sont des veaux, comme disait le général de Gaulle, ou soit les gens vraiment sont des zombies? Là vraiment il y a une question à se poser. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a une dynamique de gauche aussi avec Jean-Luc Mélenchon, pas simplement avec Marine Le Pen. Les jeux ne sont pas joués. Les dés ne sont pas joués, donc il va falloir attendre et on verra les débats. En tout cas, aujourd'hui, cette élection présidentielle, c'est une non-élection. Il n'y a aucun débat politique, il n'y a absolument rien du tout. Ce candidat-là, M. Emmanuel Macron, n'a pas rencontré les Français, il n'a pas fait son bilan.
Il était à Dijon.
Mais Dijon, attendez, mais il n'a absolument rien fait. Il n'y a aucun meeting, il n'y a aucune confrontation. La seule chose que le président de la République a fait, ou le candidat, c'est de se confronter aux journalistes. Et il l'a dit lui-même. D'ailleurs, il ne s'est pas confronté aux journalistes, ce sont des questions qu'on lui a posées.
Alors, Jimmy Dalidou.
Et quand on lui a posé la question, sur McKinsey, il s'est énervé. Voilà.
Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'effectivement, moi, il y a trois éléments qui sont graves, en fait, et trois réponses que le soi-disant président des Français, moi, j'appelle le président du capital financier, bon, c'est pas grave. Les réponses qu'il a pas apportées.
Ça en fait des clochettes ce soir.
La première réponse, je vous rappellerai qu'il y a eu des gilets jaunes et qu'il y a eu un soi-disant grand débat. Soi-disant qu'il a retroussé les manches et qu'il s'est baladé un petit peu partout dans la France.
Un débat national.
Ouais, un débat national. Donc on attend toujours la réponse. Moi j'attends toujours la réponse parce que normalement, il aurait dû, lui et son gouvernement farfelu, là, ils auraient dû apporter des réponses aux gilets jaunes.
Il aurait dû prendre des cahiers de doléances et en faire un programme.
Parce que Luc, le gars, il s'est fait en mode beau gosse, il a tourné un petit peu partout en France, il a remonté les manches et on attend toujours la réponse. Deuxième élément, c'est que le débat, il est totalement verrouillé. On a un président candidat qui a refusé toute forme de débat et qui a même été jusqu'à. Je crois que c'était TF1 ou je ne sais plus où. Il a mis de côté, lui et ses petits copains, ils ont dégagé les petits candidats, entre guillemets, alors qu'ils sont parrainés, qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle. Ça, pour un pays qui se dit démocratique, entre guillemets, ça me pose un véritable problème et ça démontre, comme je dis, que la France impérialiste est une dictature du capital. Troisième chose, la classe ouvrière et les couches populaires ne sont jamais autant appauvries avec Macron, la classe ouvrière et les couches populaires se sont appauvris dans les quartiers populaires. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure concernant le vote.
Oui.
Parce que c'est moi, j'appelle les gars dans les quartiers populaires à effectivement aller voter, mais aller voter pour un bon candidat. Et le bon candidat, c'est certainement pas Macron.
Ça, c'est vous qui le dites. Alors, Raïm Chaibi, il faut s'accrocher avec eux. Hein.
Ah, mais moi, je respecte toutes les opinions.
Ah, absolument. À vous. Allez, on vous écoute.
Bah, ce sondage sur le second tour, évidemment, moi, je regarde ça avec aussi beaucoup d'inquiétude. Mais c'est un sondage de second tour. Et moi, avant de pas penser au second tour, je pense déjà au premier tour. Donc, la question, c'est de savoir qui sera en confrontation, puisque même s'il y a les sondages, rien ne remplace le vote et l'élection. Et comme le dit d'ailleurs très bien Édouard Philippe, dans une élection, rien n'est joué d'avance. Et ça, je pense que je suis entièrement d'accord là-dessus. Maintenant, sur la question du second tour, si effectivement il s'avère que c'est le président de la République candidat qui affronte Marine Le Pen, et surtout si effectivement cet écart est celui-là, eh ben, ça démontre une chose, c'est que, un, il faut se mobiliser, mais pour se mobiliser, il faut aussi sensibiliser. Et on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les quartiers populaires. Et pour rebondir sur ce que disait mon
directeur
en face de moi tout à l'heure, quand il parlait notamment de ce débat nécessaire entre tous les candidats et que certains y ont été exclus, moi je partage totalement cette analyse. J'aurais préféré effectivement qu'il y ait tous les candidats. C'est toujours bien de confronter les points de vue, mais tout le monde sait bien, et d'ailleurs aucun chef de l'État sortant ne l'a fait, c'est un fait, personne ne l'a fait. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il un jour penser à revoir cela, mais en tout cas, pour le moment, aucune loi ne l'oblige, ni même dans la Constitution, mais on sait très bien que ça aurait été un foire d'empoigne et que personne n'aurait pu présenter ses projets, puisqu'on se serait concentré sur un candidat, quel qu'il soit.
C'est vrai qu'on peut imaginer le scénario catastrophe, c'est-à-dire à savoir, vous dites que les sondages sont tellement pas peu fiables qu'on peut se dire effectivement ce scénario. Pourquoi catastrophe ? Je suis subjectif quand je dis ça. Ce scénario tout court qui consisterait à mettre donc en évidence Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Je pense que de cause à effet.
Et là, effectivement, la question se pose.
Effectivement, oui.
Attendez, Jimmy Djalidou.
De cause à effet, ce qui risque de se passer, c'est que si nous assistons à un Macron, enfin là, le fait que
Mélenchon Le Pen.
D'abord, la première chose, c'est que les sondages, moi, j'y crois pas. Mais si l'écart se creuse réellement entre Macron et Le Pen, ça va faire appel d'air et ça va appeler l'abstention à voter. Et du coup, quand cette abstention, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas aller voter actuellement, j'appelle ça une grève des urnes. Il y a une grève des urnes depuis 2017. Bon, là, s'ils voient que l'écart se réduit, beaucoup de gens vont aller voter et la majorité ne sont pas à l'extrême droite. Du coup, ça va répercuter les votes vers le vote utile, et le vote utile cette année, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, il est déjà à peu près 15%.
Il rigole quand il dit ça.
Non, il est à peu près 15%.
Il a le visage qui sourit.
Mais si l'abstention face à ce sondage décide d'aller voter, vous récupérez facilement au moins 5%. S'il passe au deuxième tour, vous avez les candidats fractionnés à gauche qui vont répercuter leur vote. Et l'affaire peut-être bouclée pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est très bien.
Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un Le Pen, Mélenchon au deuxième tour. Franchement, je kifferais.
Écoutez,
il
y a plusieurs lectures à avoir. La première lecture, c'est de savoir pour qui voter. Et pour qui voter, il va falloir connaître le programme. Qu'est-ce que propose Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, candidat au président, je ne sais pas quoi, ou comédien sur Netflix, je ne sais pas. Parce que parfois, c'est un très bon comédien aussi. Il propose quoi ? 65 ans, l'âge de la retraite, conditionner le RSA à 22 heures, un programme ultralibéral, la réforme de la retraite, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron de façon très claire. D'autres candidats proposent une retraite à 60 ans, proposent la question de la cyberespace, proposent des emplois sociaux. Donc, on voit bien en tout cas qu'Emmanuel Macron est un candidat ultra-violent, ultra-libéral et contre les acquis sociaux. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, quand on voit aujourd'hui Marine Le Pen, qu'est-ce qu'a dit aujourd'hui Éric Zemmour sur BFM TV ?
Oui.
Il a dit Éric Zemmour tout simplement que en cas de deuxième tour ou de premier tour, parce qu'il est au premier tour, il dit qu'il est faible dans les sondages 10% et qu'il pourrait s'allier à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen peut être au deuxième tour. Et elle peut gagner, même si on considère qu'il y a un deuxième tour comme équation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Marine Le Pen peut gagner.
Le débat
de cette situation-là, c'est bien Emmanuel
une
Macron.
Poignée de minutes, il est 19h30 et c'est l'heure du Quoi de neuf ?
Les informés, le Quoi de neuf.
Le Quoi de neuf, comme chaque jeudi, c'est avec Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonsoir, mon cher Pascal.
Bonsoir, Adil.
Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, le Quoi de neuf, autour d'un compromis Zelensky. Poutine est-il toujours possible ?
Alors, on a eu un facteur d'espoir il y a 48 heures, lorsque les Russes ont dit qu'il y avait des propositions intéressantes du côté ukrainien. Puis ensuite, ces espoirs ont été douchés. Et là, on se demande si le conflit va reprendre, s'il s'enlise. En tous les cas, Poutine a besoin d'une porte de sortie. parce qu'il a compris qu'il n'ira pas jusqu'à Kiev. Et j'avais déjà d'ailleurs dit à cette antenne, il y a déjà assez longtemps, il y a 4 semaines, que même s'il va jusqu'à Kiev, il ne pourrait pas occuper durablement l'Ukraine. Alors, quel pourrait être le base de ces compromis ? Dans un compromis, il faut que personne ne perde la face. Il faut que chacun dise à sa propre opinion qu'il a gagné. Et donc Zelensky a ouvert la porte en disant qu'il pouvait étudier le statut de neutralité de l'Ukraine. Et la raison de la guerre avancée par Poutine, c'est que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN. Donc là, il y a vraiment un terrain d'entente, mais il voudrait que cette neutralité soit, disons, garantie par plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, la Pologne et même Israël. Bon. Alors, c'est très difficile de savoir comment garantir la neutralité et la sécurité d'un pays, mais en tous les cas, ça avance. Et puis, dans les propositions qui sont faites, il dit pour le Donbass et pour la Crimée, on en reparlera, enfin on a 15 ans pour régler ça. Ça, c'est assez intelligent parce que en réalité, les troupes russes ne vont pas quitter le Donbass et ils vont bien sûr pas quitter la Crimée. Mais le fait de repousser, ça permet d'avoir un cessez-le-feu sans que Zelensky ne donne le sentiment qu'il renonce à la souveraineté ukrainienne sur cela. Donc on peut se dire que ça pourrait être un compromis acceptable, au moins permettre de cesser le feu. La paix, c'est encore autre chose, mais au moins ça permettra d'arrêter les souffrances des populations civiles. Mais il peut y avoir des gens qui vont pousser à la surenchère en disant non, il faut profiter pour vaincre Poutine. Et puis il y a aussi des gens qui font de la surenchère à Moscou et qui disent pas question de céder, on est en position de force et on continue à bombarder les populations civiles pour écœurer tout le monde et que tout le monde parte et qu'on puisse conquérir les villes. Et en fait, pour tous ceux qui disent ne jamais parler avec Poutine parce qu'il a menti, il a trahi, oui, il a menti, oui, il a fait la guerre, mais c'est avec lui qu'on fera la paix, par définition. Donc, il faut ne pas couper le contact, et ne pas couper le contact ne veut pas dire accepter toutes ces conditions, mais en tous les cas, l'urgence, c'est d'amener à une solution qui permette un cessez-le-feu, parce que pour l'instant, ce sont les Ukrainiens qui souffrent, et si certains veulent résister à Poutine jusqu'au dernier Ukrainien, ils ne rendent pas service aux Ukrainiens.
Eh bien, merci pour ce bravo d'abord pour ce billet d'humeur. Merci. Et je vous retrouve donc jeudi prochain sans faute, hein, mon cher Pascal Boniface.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé, patron de l'Eris. Merci infiniment. On marque la pause pub et on se retrouve avec Hamid Chriat, avec Jimmy Dalidou, avec Raed Chaibi sur la question justement de la guerre en Ukraine. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et les 19h37 et on poursuit le face-à-face avec Hamid Chriat, avec Jimmy Dalidou et enfin avec Raed Chaibi. La guerre en Ukraine, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Tout le monde évidemment se préoccupe et ce fameux cessez-feu peut-il se réaliser concrètement. Merci Giovanni. Et enfin surtout diplomatiquement. Alors monsieur Hamid Chriat, justement parlons-en. Poutine, franchement, il va jusqu'où là maintenant?
Écoutez, Vladimir Poutine...
Qu'est-ce qu'il cherche là au juste?
Non, il cherche quoi? D'abord, il faut saluer la médiation turque et israélienne. Mmh. On voit bien que l'Union européenne aujourd'hui, elle a été dépassée. Qui détient la présidence de l'Union européenne? On va dire encore que je suis un anti-macroniste, c'est le président Emmanuel Macron, préfet des États-Unis. On voit bien aujourd'hui que Joe Biden... Non mais attendez.
Un impérialisme nord-américain.
Attendez. Préfet des États-Unis. On voit bien aujourd'hui que... Oui, vous avez bien entendu. Préfet des États-Unis. En tant que président de l'Union européenne qui est censé aujourd'hui proposer des solutions. Et d'ailleurs, moi, je remercie Emmanuel Macron. Il a fait des bonnes choses. Je ne veux pas critiquer surtout. Lorsqu'il était en contact permanent...
Je
ne
sais pas ce qu'il vous a fait, mais vous êtes déçu pour être
à ce point. Non, je ne suis pas...
Il a brisé les Français, il a divisé tout le monde, il a cassé la France.
Il a une haine viscérale.
Attendez, je veux dire... Je n'ai pas de haine, attendez. On n'est pas contre la haine. Nous sommes des gens quand même, des analystes. Nous écrivons des choses, nous publions, nous passons sur des chaînes internationales. Donc voilà, nous ne sommes pas des amateurs. Quand on fait de la politique, on ne gère pas, par exemple, la crise du Covid de façon amateuriste. Ou on ne la confie pas à McKinsey, par exemple. C'est juste un exemple, monsieur Farkan. Hein. Vous comprenez.
Comme beaucoup qui ont sont passés par le cabinet de McKinsey.
Ah, vous reprenez les langages du gouvernement d'Emmanuel Macron?
Pas du tout. C'est une
réalité. Vous reprenez le langage du gouvernement?
Non, j'essaie juste de faire preuve d'objectivité.
Vous faites votre travail.
L'objectif, c'est qu'une page de McKinsey, ça coûte 2000 balles. Et pendant ce temps-là,
c'est vrai que le patriotisme.
Pour revenir sur ce sujet, parce que j'ai pas envie de m'éparpiller.
On va pas parler. Mais c'est vrai que le patriotisme, c'est prendre une société américaine sur la question des data, etc. Mais ça mériterait un débat sur McKinsey. un jour qu'on fera peut-être, je sais pas quand, mais sur la question de la Russie. Le président de la République a fait une bonne chose, c'est qu'il maintenait le contact avec Vladimir Poutine pour ne pas l'isoler. Ça, c'est une bonne pratique. Sur la question de l'Union européenne, le président Macron, malheureusement, n'a pas proposé d'alternative, de solution. J'aurais aimé, comme je l'ai dit sur ce plateau ou sur Al Jazeera English, c'est que le président de la République fasse une réunion au sein de l'Union européenne en invitant le président Poutine et le président ukrainien. Aujourd'hui, l'étape de négociation se passe à Istanbul en Turquie ou en Israël. Où est l'Union européenne ? L'Union européenne est en train d'attendre les directives américaines. Il n'y a pas en réalité d'Union européenne de la défense. Il n'y a pas une Union européenne diplomatique. Il n'y a pas de voie commune. Les Allemands achètent du gaz. Les Allemands continuent à investir en Russie en achetant du gaz et du pétrole. L'Inde, etc. Et d'autant plus, j'aimerais dire une chose très importante, c'est que la crise russo-ukrainienne ne concerne que l'Occident. On voit bien aussi les blocs et le nouvel ordre mondial qui s'installent. L'Arabie Saoudite sur la question des pétrodollars avec les dollars, avec le yuan. L'Inde continue à acheter du pétrole aux Russes, les Émirats Arabes Unis, le Maroc qui est un intermédiaire maintenant indéniable. Donc là aussi, il va falloir dire qu'il n'y a pas de voix unanime sur cette question-là.
Je reviendrai sur trois points.
Jimmy Dalidou.
Non, quatre points. Quatre points. Le premier point, je dirais, c'est que je ne rentrerai pas dans ce piège des personnages, en fait. Tout ça, je suis d'accord avec ce que disait Jean Jaurès. Jean Jaurès disait que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc, ce n'est pas une question de personnage, c'est une question de mode de production. Donc, tant qu'on n'a pas compris que le problème de les causes de nos problèmes, que ce soit des problèmes d'ordre économique, politique, social, sociétal, et à quelques niveaux que ce soit, vient du mode de production capitaliste qui est incapable de satisfaire les besoins sociaux de la population. Et je suis certain que le mode de production capitaliste va se casser la gueule parce qu'il y a eu trois autres modes de production et ils se sont tous cassés la gueule. C'est ça qui est une analyse, j'en prendrai ton terme, une analyse de la réalité objective. La deuxième chose, tout à l'heure on disait que...
Quelle est cette deuxième chose
On parlait de cadre de sécurité qui allait être apporté par l'Union européenne et les États-Unis. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de cadre de sécurité. Le capitalisme qui a atteint son stade suprême, c'est-à-dire l'impérialisme, engendre, comme le disait Jean Jaurès, la guerre, et c'est comme ça qu'il fonctionne. La rotation du capital et les lois de l'accumulation du capital et de la concentration du capital sont conditionnées par la misère et par la guerre. Tant qu'on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. Et la troisième chose, je dirais, c'est que, pour répondre à la question d'Adil d'une manière concrète, jusqu'où ira Poutine ? Mais là où je suis d'accord avec M. Poutine, et j'ai pas honte de le dire, c'est que le gouvernement ukrainien doit dénazifier son gouvernement. On parle de qui ? On parle de qui, bordel ? On parle de Svoboda, de Pravi Sektor, on parle du régiment Azov. Je vous rappellerai qu'il prenait des balles, il les trempait dans la graisse de porc avant de tirer sur des soldats musulmans tchétchènes. Ça, il faut les... Donc je dis qu'il faut les dénazifier. Je vous rappellerai qu'en Ukraine, le gouvernement ukrainien a imposé l'anniversaire de Stepan Bandera.
Je suis d'accord avec toi, mais ça reste une minute.
Stepan Bandera, c'est un nazi qui est fêté tous les ans.
Et ça justifie de tuer des
civils. Ça justifie
pas de tuer des civils.
S'il vous plaît, messieurs.
Je finis ce que je dis.
Parce qu'on n'a pas entendu Raïd Chaïbi.
Propagande russe, comme il va falloir faire attention.
Et ensuite, je finirai par cette réalité qu'en fait...
Soyons prudents.
Que c'est... Se faire piéger dans une question de personnage, parce que les médias occidentaux, là, en pointant du doigt l'état psychologique
certains
de
médias,
Poutine,
pas tous les médias.
Ça, c'est un piège populiste. C'est pas une question de personnage. C'est une question de.
C'est un piège populiste.
Non, mais certains médias. Leur FM est un média occidental.
Le problème vient du mode de production et qui doit être socialisé. Non, le mode de production capitaliste doit être
justement,
changé et on doit passer à un mode de production socialisé. C'est comme ça qu'on va y aller.
Justement, on a besoin
d'accord,
de la diplomatie.
J'entends bien les modes de production, etc. Ce discours, j'entends bien, sauf qu'il y a des civils qui meurent. Et bizarrement, je n'ai pas entendu de votre bouche.
Les civils meurent depuis 2014.
Non, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais
depuis 2014, ils meurent. T'es d'accord ou pas?
Peu importe.
Sur la partie du.
Laissez-le, s'il vous plaît, il n'avait pas placé une phrase.
Je vous écoute.
Laissez Raïd Chaïbi au moins exprimer son point de vue.
La nazification, etc.
S'il vous plaît.
Mais rien ne justifie qu'on tue des civils gratuitement.
Exactement.
C'est parce qu'on
par
a rapport,
dit.
Par rapport. Bah écoutez, moi je
on n'a pas dit qu'il fallait tuer des civils. T'as
j'ai
compris.
J'ai pas dit.
Je te dis que le problème
j'ai
vient pas, du mode de production
j'ai
capitaliste.
J'ai dit que rien ne justifie qu'on tue des civils.
Ah, ne me fais pas dire ce que dans ce que j'ai pas dit.
Bah écoutez, quand vous dites
Bah, vas-y, d'ailleurs, ce que dit la Russie,
à quel moment on l'a dénazifié, bref. Donc, par rapport
à. Ah, parce que Stéphane Bandera, c'était pas un nazi.
Par rapport à ce que disait mon cher collègue à côté, sur la, comment dirais-je, sur,
apparemment,
sur
le, c'est pas des nazis,
la non-voix ou en tout cas la non-présence de l'Union européenne ou bien le fait que le président de l'Union européenne soit un préfet des États-Unis. Où a-t-il pris la même position que le président Biden ? Le président Biden, justement, depuis le début du conflit, souffle plutôt sur les braises. Il a plutôt soufflé sur les braises plutôt qu'autre chose. Ça, c'est sûr. Ensuite, sur l'Union européenne, c'est la première fois, en tout cas, moi, de ma jeune histoire.
Je vous laisserai répondre, attendez.
Voilà, c'est la première fois, quand même, où a-t-il pris la même position ?
Je vous laisse terminer, je vais répondre sur le fond.
Il n'y a pas de problème. Ensuite, sur la voie de l'Union européenne, l'Union européenne a toujours, là, pour le coup, depuis le début du conflit, ils ont agi d'une seule et même voix. D'une seule et même voix. D'accord. Ensuite, sur le troisième
pour faire la guerre et débloquer 13 milliards.
Ensuite, sur le troisième point.
Ah, pour donner 13 milliards et faire la guerre.
Ensuite, sur le troisième point, sur le fait que. Je vous ai pas coupé, merci. Sur le fait que le président de l'Union européenne, Emmanuel Macron, devait venir sur pour éléments, réunir le président Poutine et le président Zelensky, il a proposé d'organiser un sommet. C'est Poutine qui l'a refusé. Donc dire que, alors parce que c'est bien beau de dire les yaka faucons, il faudra organiser un sommet, sauf que ni vous ni moi d'ailleurs,
va vous répondre.
Nous sommes diplomates, on ne peut pas dire que le président de la République n'a pas fait d'efforts pour essayer de calmer le jeu, calmer la situation en se déplaçant en Ukraine et en Russie, en ayant des conversations téléphoniques systématiques avec le président Poutine. C'est le seul
qui maintient le contact, chancelier allemand
qui tient les contacts. Tous les jours, que le président des États-Unis, souffle sur les braises et a même rappelé lors du dernier sommet de l'OTAN, n'oubliez pas l'article 5, c'est-à-dire ce fameux article qui dit que quand un membre de l'OTAN est
attaqué, il n'a pas tort.
S'il y a un va-t-en-guérisme de la part des États-Unis, c'est pas le cas de la France et c'est pas le cas de l'Union européenne.
Je vous réponds sur le fond. Je réponds sur le fond. D'abord, quand vous dites qu'il y a une position commune au sein de l'Union européenne, il va falloir m'expliquer pourquoi l'Allemagne achète du gaz seule, pourquoi la Suède a des accords avec la Russie, pourquoi la Finlande est un pays non aligné qui est membre de l'Union européenne, pourquoi la Norvège est un pays non aligné qui est membre de l'Union européenne, pourquoi la Finlande est un membre non aligné qui est membre de l'Union européenne. Troisième point. Deuxième des choses, lorsque vous parlez d'Emmanuel Macron, il va falloir savoir que l'Union européenne n'a pas de service de renseignement. À la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai une expérience diplomatique un peu. Je connais la diplomatie, j'ai écrit des notes pour le ministère des Affaires étrangères anglais et j'ai travaillé pour des ambassades ici en France. Les Arabes, ambassade de Malte et l'ambassade d'Iran. Troisième des choses, c'est que la guerre en Ukraine, monsieur, et c'est là où à mon avis que vous ne maîtrisez pas la géostratégie, c'est que comment se fait-il aujourd'hui que l'Ukraine est en avance et que gagne la guerre ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a tout simplement des services de renseignement américains qui, depuis 2014, fournissent des armes à l'Ukraine, 2, donnent toutes les positions géostratégiques en Ukraine aux Ukrainiens contre les Russes, et de 3, c'est parce que les États-Unis sont la seule puissance dans la région à avoir 1, les moyens financiers, 2, les moyens militaires, et 3, les moyens humains en termes de renseignement. Vous ne gagnez pas une guerre simplement donner des coups de fil à monsieur Vladimir Poutine. Vous gagnez une guerre avec ce qu'on appelle le DRM, la direction du renseignement militaire. J'en veux pour preuve, c'est que le haut gradé du renseignement militaire français a été monsieur Varken, il a été quoi ?
Il a été con, voilà.
Ah bon ? Mais pourquoi ?
Bon, écoutez.
Mais les serviteurs de renseignement français sont les meilleurs en Europe ?
Alors, Jimmy Dalidou, je vous donne la parole à Tadé, s'il vous plaît. Jimmy Dalidou,
je peux juste comprendre.
Non, il faut que la main. S'il vous plaît.
Un peu de modestie sur les questions géostratégiques, je suis très bien renseigné.
Non, mais il est peut-être aussi très bien renseigné. Et alors, il peut être aussi bien renseigné.
C'est pas moi qui exhibe les notes que je produis.
Il a pas tort, d'autant plus que le centre de médiation aujourd'hui se trouve en Turquie et en Israël. Il y a deux choses importantes. C'est que tu traces une ligne de démarcation entre la France et les États-Unis. Ça, c'est un véritable problème. Parce que je reviendrai sur deux points. Premier point, c'est qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre la France et les États-Unis, parce qu'un capital en rotation reste un capital en rotation. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay, et ensuite, je prends un exemple concret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les luttes sociales. Et c'est comment on fait pour défendre les salariés, rendre aux salariés
ce qu'on leur a volé.
Et tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre le pont que je fais entre les deux par rapport à ce que tu as dit. Parce que tout à l'heure, tu as dit quoi ? t'as dit que Emmanuel Macron et avait soi-disant trouvé une porte de sortie. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Hamid. Une porte de sortie, et essayer de trouver une porte de sortie à cette guerre en téléphonant.
Mais il a
t'as
joué
parlé,
les
t'as même pas, t'avais une approche économiste
le médiateur.
En disant que de l'argent avait été débloqué.
Il a peut-être pas forcément tout réussi, mais c'est lui qui s'est déplacé.
Je vais finir ce que je suis en train de te dire.
C'est
que 13 milliards, plus de 13 milliards ont été débloqués. Plus de 13 milliards ont été débloqués pour faire la guerre, alors que le 20 novembre 2021, pendant qu'ils étaient tous en train de débloquer du fric pour gaver l'agence de McKinsey, pour envoyer des armes de guerre à l'Ukraine, etc., ils ont refusé l'augmentation du SMIC.
Ça va nous avancer vers la paix. Ça.
Le 20 novembre 2021, ils ont refusé l'augmentation du SMIC. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, c'est un héros, parce que le mec, il a débloqué plusieurs milliards pour faire la guerre.
Je n'ai pas dit que c'est un héros.
Et tu vas, tu es en train de dire
qu'il a joué son rôle de président de l'Union européenne, qui a fait entendre la voix de l'Union européenne.
Laissez-le parler.
Il a fait entendre la voix de l'Union européenne. Et d'ailleurs, lui-même avait reconnu qu'il y avait des intérêts économiques qui étaient différents par pays, parce que certains, effectivement, comme vous le dites si bien, commerce notamment par rapport
ça
au gaz.
Chose,
mais
plan,
la voie de l'Union européenne,
Marshall,
la voie,
chose,
la,
plan
non, mais, le plan non, mais si vous êtes nostalgique
la
de l'époque,
Staline, de l'impérialisme français,
le plan Marshall, etc., c'est très bien. Chose. Sauf que moi, je suis en 2022, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et par rapport à la position de l'Union européenne, moi, je trouve
nous aussi,
que l'Union européenne s'est fait entendre. Alors après, il faut saluer également les efforts de médiation qui sont faits par les Turcs, notamment par les Israéliens, et aussi je pense que les Chinois également peuvent avoir un rôle ou certainement ont un rôle, mais on ne peut pas nier, en tout cas ce serait je pense pas que ce serait, je dirais, correct de le nier, peu importe les convictions politiques que vous avez, mais on peut pas nier que le président a fait tout son maximum
et il a pas tort,
pour éviter la guerre.
Il a pas tort, Ali.
Excusez-moi.
Non, mais alors que le président s'il Biden il nous reste encore un dernier sujet.
À souffler sur les braises.
S'il vous plaît.
Et à vouloir.
S'il vous plaît.
Et d'ailleurs, le jour où les Russes ont commencé à attaquer les Ukrainiens, le président Biden a mis près de 24 heures avant de réagir.
Je voudrais, s'il vous plaît, me centrer les sujets. Je salue, vous savez quoi,
ce que vous comprenez pas.
S'il vous plaît, je salue, vous savez quoi, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est les Uber, vous savez les Uber, les taxis Uber, qui sont très, très, très nombreux à nous écouter. Merci de leur fidélité. Et plus particulièrement, il y en a un qui est un vrai fidèle auditeur qui s'appelle Philly, originaire du Mali, que je salue chaleureusement parce qu'il écoute en permanence. Voilà, la dédicace est passée parce que c'est des auditeurs qui ne nous lâchent pas.
On
c'est
les
aussi
salue.
Ça, les informer. Présidentielle, je voudrais. Ils sont de plus en plus. Vous savez que ça gonfle vraiment.
Oui.
Et merci à eux. Face à la menace de l'abstention, vous l'avez dit tout à l'heure, Jimmy.
Tout à fait.
Voilà, qui est la menace de la démocratie. Face à la menace, justement, des quartiers populaires, est-ce que les habitants des quartiers populaires aujourd'hui peuvent encore se mobiliser? Je vous pose la question, Raïd Chaïbi.
Jimmy Dalidou. Moi, c'est une question importante et je pense que dans les quartiers populaires. Pourquoi les quartiers populaires ils ne votent pas? Moi, je pense c'est la combinaison de deux éléments. Premier élément, c'est la trahison de la gauche. On peut constater que la gauche, qui normalement doit faire un effort politique à tous les niveaux pour être pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, des couches populaires, etc. À chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils ont toujours trahi le peuple travailleur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce soit la droite ou l'extrême droite, ils ont toujours pointer du doigt ces quartiers comme étant infestés de musulmans dont le comportement n'était pas en cohérence avec la République. Mmh. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand on vous répète que vous n'êtes pas français, parce que vous êtes soi-disant musulman, et que votre comportement ne colle pas, n'est pas cohérent avec cette République, entre guillemets, à un moment, t'as plus envie de voter.
Donc de l'islamophobie.
Ouais, non, mais j'utiliserai pas ce terme-là.
Je fais juste un tour de table rapidement.
Je dirais que c'est un problème social et qui permet d'empêcher le développement de la lutte des classes et de diviser tout le monde
d'une
par
phrase,
la lutte
qu'est-ce
des races.
Qu'est-ce qu'il faut faire d'une phrase? Je dois rendre l'antenne, ça y est, on est. Évidemment,
d'abord que rien n'a été fait pour les quartiers populaires, si on repense si on pense que rien n'a été fait sur les quartiers populaires, on se trompe. Parce que si on voit le plan Borloo, puis récemment l'ANRU dont le budget était passé de 5 à 12 milliards.
Et ton président enlevé,
comment?
Et ton président qui a enlevé le plomb
en l'eau, c'est le nôtre, il est président de la République. Pour les quartiers populaires,
c'est aussi votre président.
Pour les quartiers populaires, il faut surtout mobiliser, mais pour pouvoir mobiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut sensibiliser, et ça nécessite un travail de longue haleine.
Je peux avoir
merci pour le mot de la fin.
Allez-y.
Je crois que le président de la République Emmanuel Macron a fait tellement de choses que le conseil présidentiel des villes, la plupart des membres ont démissionné.
Allez, merci à vous.
Donc ça va.
Effectivement, débat.
Ça signifie beaucoup de choses.
Animé débat animé, passionnant. Merci à Raed Chaibi, merci à Mitch Riet,
merci
à Jimmy,
merci.
Dalidou. À la réalisation, c'était Giovanni. Bilal Nedman, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il a le temps d'annoncer son programme? Non, même pas. Aïe, 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 bah oui, la Coupe d'Afrique, la sélection.
Le Maroc 4-1.
Le Maroc 4-1, la Tunisie.
L'Algérie 2-1, Cameroun.
Oui, qualifié.
L'Algérie, avec du mal,
ça provoque une grosse polémique aussi.
Mais on est qualifié.
Contre le Mali.
Allez, tout de suite, c'est Bilal Nedman qui refait le point sur tous ces matchs.
4-1, le Maroc.
20h-21h. C'est tout de suite, c'est maintenant dans Time Sport. À demain, avec autant de plaisir. C'est pas les informés. Demain, c'est la spéciale Ramadan avec Philippe. Co-animation spéciale.
Vous avez dit Ramadan?
Absolument, pour annoncer le début de cette période du Ramadan. Allez, à demain. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.